suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Le matin du 8 novembre 2008, cela fera exactement 8 ans dans un mois, je sillonnais les rues incroyablement calmes de Brownsville, au cœur de Brooklyn, l'un des quartiers les plus pauvres de New York City, celui qui connaît depuis des décennies des taux d'homicide les plus élevés de la ville et même du pays, un quartier très majoritairement noir. Ce matin d'élection, en remontant les sages files d'attente devant les bureaux de vote, on avait l'impression, le sentiment, que tout Brownsville retenait son souffle, un souffle collectif. Le soir du 8 novembre, vers 22h, en débouchant du métro au coin de la 125e rue et de Malcolm X Boulevard, des cris fusaient « Ohio, Ohio ». L'état décisif venait d'être remporté au moment même où j'arrivais devant l'Apollo Theater. C'était désormais une certitude, Barack Obama serait le prochain président des États-Unis. Quel regard porte-t-on 8 ans plus tard sur cet événement historique? Qu'a signifié l'élection pour la première fois d'un président africain-américain à la Maison-Blanche? Qu'ont changé 8 années d'exercice du pouvoir par celui qui va tant nous manquer à partir de janvier prochain? Les morts tragiques récentes d'hommes noirs qui ont suscité d'importantes mobilisations et même la naissance d'un mouvement de grande ampleur, Black Lives Matter, nous indique bien entendu que l'élection d'un président noir ne pouvait pas tout changer. Selon les dernières statistiques disponibles, nous indique Caroline Roland-Diamond dans un livre dont on va parler aujourd'hui et qui vient de paraître à La Découverte, 39% des enfants noirs vivent encore sous le seuil de pauvreté contre 14% des enfants blancs. L'accès aux soins et l'espérance de vie des Africains-Américains restent très en deçà de ceux de la population blanche. Le taux de chômage des noirs à l'échelle nationale, y compris parmi les diplômés, demeure plus de 2 fois supérieur à celui des blancs. À peine 70% des étudiants noirs terminent leurs études secondaires, contre une moyenne nationale de 81,4% et un taux supérieur à 75% pour les hispaniques. Alors que plus de 70% des blancs sont propriétaires de leur logement, tel est le cas pour moins de 45% des noirs. Et ce pourcentage est en recul rapide depuis la récession et la crise des subprimes en 2008. Et ces logements ne sont pas non plus de la même valeur. En termes de patrimoine global, les noirs continuent de ne posséder qu'un dixième de la valeur des actifs des blancs, facteur qui ne peut que contribuer à l'avenir au maintien des inégalités. Voilà donc quelques chiffres à partir desquels nous allons entamer rétrospectivement l'histoire de Black America. Caroline Roland-Diamond, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, vous êtes professeure à l'université Paris-Ouest Nanterre et vous publiez donc Black America, une histoire des luttes pour l'égalité et la justice, 19e-21e siècle, aux éditions La Découverte. Les chiffres que je viens de citer, on les trouve dans l'épilogue de votre livre, qui est un livre d'histoire. Vous ne vous attachez pas à la situation présente, mais vous arrivez néanmoins à cette conclusion factuelle. Mais pour arriver là, vous faites un long voyage, 150 ans en gros d'histoire, c'est-à-dire que vous commencez avec la guerre de sécession, et c'est l'histoire de ce mouvement de la Black America que vous racontez par le détail, très très minutieusement, et l'on y découvre énormément de choses. Surtout nous en France qui sommes assez ignorants, à vrai dire, de cette histoire extraordinairement riche. Vous commencez par remettre en question d'ailleurs l'un des mythes les plus partagés, et pas qu'en France, à propos de cette histoire-là, de l'Amérique noire. Un mythe qui, en général, met en scène 2 types de mouvements. L'un qui serait pacifique, qui s'attacherait aux droits, et l'autre qui serait violent. Alors évidemment, tout ça s'incarne à travers les 2 figures qui sont probablement les plus connues ici. Quand on parle d'Amérique noire, à l'exception de Barack Obama, qui est devenu autre chose après. Mais ces 2 figures, c'est évidemment celle de Martin Luther King et de Malcolm X. En fait, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Et vous montrez, c'est l'une des forces de votre livre, que ces 2 courants existent, mais qu'ils existent depuis toujours, en quelque sorte, et qu'ils ont entretenu des liens extraordinairement étroits.
Oui, tout à fait. Donc, j'ai, à travers ces 150 ans d'histoire que je retrace, je m'attache à chaque grande période de cette histoire du combat des Noirs pour l'égalité et la justice, de montrer que ces 2 traditions d'activisme, la tradition réformiste, pacifiste, et une tradition plus radicale qui s'attaquait aux institutions et qui n'hésitait pas à recourir à l'autodéfense armée, ces 2 traditions ont non seulement coexisté à toutes les périodes, mais qu'elles se sont souvent entrecroisées. Et elles se sont entrecroisées, me semble-t-il, dans l'utilisation que les militants de base, dans leur pratique quotidienne de l'activisme, dans leur manière de réagir chaque jour aux inégalités dont ils souffraient. Donc la manière dont ces militants ont emprunté, selon les circonstances particulières de leur situation, tantôt à la tradition réformiste d'activisme, tantôt à la tradition beaucoup plus radicale. Et souvent, donc, on pouvait mélanger donc, des moyens d'action, le recours, le brandir des armes pour pouvoir défendre l'honneur de sa famille, par exemple, mais dans un but tout à fait réformiste, tout simplement d'améliorer les conditions de vie.
Alors évidemment, pour expliquer tout ça, il faut rentrer dans le détail de cette histoire, ce qui fait que votre livre est un livre imposant de 500 pages, qui se lit néanmoins extraordinairement bien, parce que ce sont beaucoup de petites histoires qui viennent former cette grande histoire. Et en même temps, c'est un livre d'historienne, mais qui s'inscrit dans une démarche de sciences sociales, c'est-à-dire que votre perspective, et notamment celle des nouveaux mouvements sociaux, vous avez essayé de montrer quel type de mobilisation se sont fait jour. Et d'ailleurs, cette histoire de la Black America est aussi l'histoire d'un laboratoire pour les formes nouvelles de mobilisation. Je pense en particulier au sit-in. Et donc là aussi, il y a des formes de porosité entre l'histoire de la Black America et puis le mouvement social plus général, le syndicalisme américain, le mouvement des étudiants dans les années 60, par exemple.
Mais c'est bon, ça c'est toute ma formation. Moi, je suis arrivée à cette histoire parce que j'étais historienne des mouvements sociaux américains. J'ai commencé par une étude de la contestation étudiante noire, blanche et latino à Chicago dans les années 60, donc à l'époque de la guerre du Vietnam. Et j'avais étudié plus précisément les liens entre la répression politique du mouvement étudiant dans toute sa diversité, le lien entre cette répression politique et l'évolution du mouvement social. Donc c'est comme ça que je suis arrivée. Donc je suis historienne de formation, mais effectivement ayant beaucoup lu et emprunté aux sociologues et en particulier aux théoriciens des mouvements sociaux. Donc l'idée de Black America, c'était d'utiliser, de mettre à profit ces différentes théories des mouvements sociaux pour essayer de comprendre à la fois l'émergence du mouvement noir, des mouvements noirs, à partir de quel moment on peut parler d'un mouvement plutôt que d'une juxtaposition d'actes de résistance isolés. Donc quand est-ce qu'on peut parler d'un mouvement? Quelles sont les forces qui influencent ce mouvement? Comment maintenir le mouvement sur la longue durée? Comment il interagit avec les acteurs extérieurs au mouvement? Et puis évidemment, donc, prendre toujours en compte cette question de la répression physique, individuelle ou collective par les forces de police tout au long de ces siècles. Donc c'est vraiment, effectivement, je suis empreinte de cette et riche de ces connaissances sociologiques que j'essaie de mettre à utilisation dans ce grand récit historique qui finalement a essayé de faire la fabrique de l'histoire des inégalités actuelles.
On voit bien un jeu d'échelle extrêmement important parce qu'on est dans ce contexte américain d'un pays qui ne ressemble pas à la France, c'est-à-dire que c'est pas un pays centralisé, c'est un pays fédéral. Donc il y a à la fois des enjeux extraordinairement locaux et en même temps un recours à la construction nationale du mouvement avec des alliés, avec en particulier des acteurs qui vont prendre des décisions qui auront force de loi à l'échelle du pays tout entier. Je pense notamment évidemment à la Cour suprême dont certaines des décisions vont marquer l'histoire de cette Black America. Et donc on a sans arrêt un jeu d'échelle entre des incidents extraordinairement locaux qui donnent lieu à des mobilisations qui peuvent d'ailleurs diffuser ailleurs dans le pays et puis la tentative de construction de quelque chose à l'échelle des États-Unis tout entier.
Il y a effectivement une énorme diversité de situations pour les Africains-Américains à l'échelle du pays. Donc dans mon livre, j'ai essayé donc de faire une histoire nationale, alors de parler effectivement de ce qui se passait dans le Sud avec les spécificités du Sud, de la ségrégation jusqu'au milieu des années 60 et des conséquences de la fin de la ségrégation après, mais également de prendre en compte la situation spécifique du Nord et puis à partir surtout de la Deuxième Guerre mondiale, de ce qui se passe dans l'Ouest, en Californie notamment. Donc j'ai essayé de prendre en compte cette dimension régionale et cette diversité. Et de fait, il y avait tout l'activisme africain-américain et avant tout un activisme local. Mais avec une visée, une portée de transformation globale, collective, de la situation des Africains-américains. Et une des grandes stratégies du mouvement noir a été de jouer de la division du système politique américain entre deux niveaux, le niveau des États et le niveau fédéral. Donc toute une grande tactique a été pour les militants et les militantes africains-américains, de parvenir à forcer la main du gouvernement fédéral pour qu'il intervienne au nom du droit des États-Unis interviennent dans la situation, en particulier dans le sud des États-Unis. Et au-delà même de cette stratégie d'intervention du gouvernement fédéral, il y avait une stratégie encore plus globale de mise en perspective du mouvement noir et de situations très locales dans une perspective internationale.
Alors, au fond, c'est une histoire, mais c'est aussi une géographie de cette Black America. Vous venez de rappeler la division très très importante entre le Sud et le Nord. Ça commence avec ou à la fin de la guerre de sécession. Et cette période qu'on appelle la reconstruction, où on met en place, le Nord essaye, qui vient de remporter cette guerre, de mettre en place un moyen de faire en sorte que soit respectée cette victoire et en particulier ne soit pas, enfin, soit véritablement aboli l'esclavage. En fait, tout ça va être extrêmement compliqué. Ça dure 12 ans. C'est le moment aussi où des codes noirs voient le jour. Et en fait, ce qui remplace l'esclavage, c'est un système de ségrégation qui se cristallise, qui s'institutionnalise. Un exemple, mais un autre exemple, c'est l'importance des migrations du sud vers le nord sur lesquelles vous insistez, qui sont le fait du contexte économique, c'est ce qui se passe évidemment avec la Grande Dépression des années 30, mais c'est aussi, par exemple, lié à la politique de fermeture des frontières des États-Unis, c'est-à-dire que le Nord est en manque de main-d'œuvre qui viendrait d'Europe ou d'ailleurs, et donc on fait venir du Sud des Noirs américains. Donc en fait, cette dimension géographique est cruciale pour comprendre ce qui s'est passé et la manière dont, à l'échelle nationale, des choses ont pu se constituer.
Elle est essentielle, en fait. Vous mentionnez à l'instant ce qu'on appelait les grandes migrations, la grande migration, la première grande migration qui vraiment débute au moment de la Première Guerre mondiale, quand les industries du Nord, pour les besoins de la défense, s'ouvrent enfin à la main-d'œuvre africaine-américaine, qui en était exclue jusqu'alors. Et à partir de là, on ouvre littéralement les vannes d'une migration du Sud vers le Nord de centaines de milliers d'Africains-américains. Alors, la migration se ralentit au moment de la Grande Dépression, parce que c'est... Les migrations sont plus difficiles d'un point de vue pratique, mais elles prennent une toute autre ampleur à partir de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce que les historiens ont appelé la seconde grande migration, qui va durer de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 70. Et là, on ne parle plus de centaines de milliers de personnes, on parle de millions. La seconde grande migration implique plusieurs millions de Noirs américains, entre 6 et 7 millions qui quittent le Sud pour s'installer dans le Nord et qui donnent finalement le paysage actuel de la communauté africaine-américaine à l'échelle du pays. Et là, c'est à ce moment-là, de la deuxième grande migration, qu'on a aussi ces migrations vers l'Ouest, tout à fait massives.
Avec, puisqu'on reste dans la géographie, un cas un peu à part de la Californie par rapport à cette histoire, au moins jusqu'aux émeutes de Watts, jusqu'au milieu des années 60, la situation est un petit peu différente en Californie par rapport au reste du pays.
La situation était différente en Californie, qui jouissait d'une très bonne image, l'image un peu d'un Eldorado à l'échelle du pays, parce qu'il était beaucoup plus facile aux Africains-Américains de devenir propriétaires. L'étalement en particulier urbain, typique de Los Angeles, amoindrissait les tensions raciales qui, dans d'autres endroits, ont contraint les Africains-Américains à habiter dans ce qu'on va appeler le ghetto noir. À Los Angeles, la situation était différente et les tensions étaient moindres. Elles étaient réelles également, mais elles s'exprimaient de manière différente. D'où une image tout à fait positive, pendant très longtemps, de la Californie. Une image positive qui a éclaté au moment des émeutes de Watts en 1965.
Alors toutes ces nuances géographiques, ces nuances sociales, au fond, nous donnent à voir cette histoire très complexe, riche. Et au fond, moi j'ai eu le sentiment, en vous lisant, de découvrir le contexte qui servait finalement de matériel, par exemple au roman que j'admire beaucoup de Toni Morrison, ou qui est capable de montrer à travers des personnages toutes ces nuances, tous ces clivages qui traversent aussi cette communauté noire, et aussi évidemment, et vous y arrêtez beaucoup, la question des relations entre les hommes et les femmes, et le rôle et la place des femmes dans cette Black America qui est pour vous une autre manière aussi, je dirais, d'écrire cette histoire, les nouveaux mouvements sociaux, mais aussi faire attention à celles qu'on n'a peut-être pas assez prises en compte jusque-là et qui ont joué des rôles extraordinairement importants.
Mais effectivement, c'était l'autre grand objectif que je m'étais fixé en écrivant cette histoire, qui était donc de redonner leur place aux femmes africaines-américaines dans ce long combat pour l'égalité et la justice. Parce que quand on regarde à la fois les images qu'on a dans la mémoire collective, ce qu'on disait encore en ouvrant cette émission, les grands noms qui viennent tout de suite, c'est Malcolm X et Martin Luther King. Bon, alors parfois, on a un peu Rosa Parks ou Angela Davis, mais de manière secondaire. Et on a très très peu d'images et de connaissances du rôle que les femmes ont joué dans cette histoire. Donc c'était une des contributions que j'ai essayé d'apporter, qui était de tout au long
de chaque chapitre
périodes,
a une partie ou plusieurs un peu dans lesquelles vous regardez particulièrement le rôle des femmes.
Oui, oui, je choisis parfois donc des exemples féminins plutôt que masculins pour illustrer des phénomènes généraux que je décris. Et puis, moi, donc mon idée, c'était pas seulement d'essayer de corriger finalement l'injustice de leur effacement dans, à la fois dans la mémoire collective, mais aussi dans l'historiographie, parce que l'historiographie a corrigé ce défaut depuis la fin des années 1980. Mais pendant très longtemps, on a eu beaucoup, beaucoup d'ouvrages qui n'accordaient quasiment aucune place aux femmes. Donc, c'était pas seulement de corriger l'injustice de leur effacement, mais il m'a semblé qu'en effaçant la présence des femmes, on ne comprenait pas suffisamment bien les liens qu'on évoquait tout à l'heure entre ces pratiques réformistes et ces pratiques radicales. Parce qu'il m'a semblé, donc, alors ça peut être sujet à discussion, que l'activisme féminin africain-américain, alors dans toute sa diversité également, était souvent celui qui empruntait le plus volontiers aux différentes traditions. Et qu'effacer le rôle des femmes dans cette histoire rigidifiait les choses et permettait d'avoir une vision trop tranchée entre, finalement, beaucoup d'études qui s'intéressent aux pratiques réformistes du type du mouvement des droits civiques, ou alors, au contraire, des études qui s'intéressent exclusivement aux pratiques radicales et qui peuvent s'intéresser au mouvement du Black Power, par exemple, en parlant un petit peu des femmes et souvent en éludant leur place.
Oui, les femmes, en fait, ne sont pas forcément que réformistes, que celles qui pensent en termes de réussite sociale individuelle, de uplift, comme on dit, pour reprendre une expression qui était celle de Booker T. Washington, enfin l'un de ceux qui poussait les Noirs, au fond, à réussir en créant leurs entreprises. Il imaginait que la société américaine serait transformée si 10% seulement des Noirs arrivaient à s'en sortir, en quelque sorte.
Et cette grande tradition d'uplift, donc d'élévation sociale et économique individuelle, qui, à terme, amènerait une élévation sociale collective, mais cette grande tradition, qui est vraiment la tradition réformiste dans toute sa splendeur, elle-même s'est déclinée en plusieurs visages, selon les tenants de cette pratique. Un visage effectivement centré sur les questions de formation professionnelle, d'entrepreneuriat, porté par Booker T. Washington, mais il y a aussi même Du Bois reprenait volontiers à son compte certains éléments de cette tradition pour souligner le fait qu'il fallait une formation, cette fois intellectuelle classique, d'une élite noire qui ensuite allait tirer vers le haut l'ensemble des masses. Et donc clairement, ce ne sont pas que les femmes qui portaient cette tradition, et les femmes, il y avait aussi des femmes très radicales qui, à toutes les périodes de l'histoire, qui au contraire revendiquaient une attaque frontale du système ségrégationniste ou des inégalités. Je pense par exemple à quelqu'un comme la journaliste Ida B. Wells, donc fin 19e siècle, femme incroyable qui a cofondé un journal à Memphis, dans l'État du Tennessee, et dont la grande croisade était de lutter contre le lynchage. Et à ce titre, elle a organisé donc non seulement des grandes campagnes dans la presse, campagnes de portée nationale et internationale, qu'elle a très vite compris qu'il fallait attirer le regard de l'étranger sur cette question pour forcer la main du gouvernement à faire quelque chose. Donc une campagne médiatique, en quelque sorte, sur cette question, fondée sur des enquêtes de terrain très poussées qu'elle avait menées, dans lesquelles elle étudiait beaucoup de cas de victimes de lynchage, où elle montrait que ces hommes, car c'était beaucoup, en grande majorité des hommes qui étaient victimes, ces hommes étaient souvent des personnes qui réussissaient socialement ou économiquement, et qui, à ce titre, constituaient une menace, non pas sociale parce qu'ils auraient violé une femme blanche, mais parce qu'ils constituaient une menace pour l'équilibre en vigueur politique et économique du Sud. Donc cette femme incroyable menait cette campagne, et puis ensuite elle est partie, à cause des nombreuses menaces sur sa vie, elle a dû partir du Sud, s'installer d'abord à New York, puis à Chicago, où elle a continué son combat.
Vous parlez du lynchage, je pense immédiatement à l'une des salles de l'exposition qui vient d'ouvrir au musée du Quai Branly sur The Color Line et sur la manière dont les artistes africains-américains ont participé de ce mouvement dont vous racontez l'histoire plus large, mais d'ailleurs vous avez des pages aussi consacrées à Harlem Renaissance, etc. Mais donc dans cette exposition, il y a une salle consacrée au lynchage très impressionnante avec des magazines, des journaux, des tracts qui ressemblent à ceux dont vous parlez, mais aussi des toiles, des œuvres d'art visuel, et puis, très émouvant, le pressage original en vinyle, à moins que ce soit une matière un peu avant le vinyle, de Strange Fruit, la chanson interprétée par Billie Holiday, de ces fruits étranges que sont ces hommes pendus aux arbres. Et donc, voilà, je voulais faire une parenthèse pour dire à quel point cette exposition peut se visiter en parallèle de la lecture de votre livre, parce qu'on a ce pendant, au fond, artistique. Quel rôle, d'après vous, les artistes, que ce soit les écrivains, les peintres, les musiciens, ont joué dans ce mouvement de la Black America?
Ils ont joué un rôle tout à fait essentiel, à savoir qu'ils ont alors à la fois permis d'attirer largement l'attention d'un public beaucoup plus large au-delà de la communauté africaine-américaine, sur les problèmes de violence, d'inégalité, de ségrégation, et j'en passe. Donc ça, c'est un premier rôle tout à fait évident.
Comme les sportifs, d'ailleurs.
Exactement.
Sur lesquels vous arrêtez aussi.
Oui, oui, j'essaie de ne pas oublier des exemples de sportifs qui, à la fois eux-mêmes ou dans leur pratique sportive, ont pu être
le boxeur,
les premiers.
Jack Johnson, par exemple.
Voilà, ou des boxeurs, ou là, effectivement, les premiers, ou Jackie Robinson, qui est le premier, voilà, joueur de baseball noir à jouer pour une équipe blanche, etc. Donc, il y a plusieurs mentions au fil de mes pages de sportifs. Mais les artistes, donc, ont eu ce rôle-là, et ils ont aussi eu comme rôle de, et c'est quelque chose à laquelle j'accorde une grande importance dans mon livre, de montrer, ils illustrent, en fait, la créativité et l'inventivité de cette communauté africaine-américaine au fil donc des décennies, parce que j'ai pas souhaité faire une histoire seulement de la réaction. C'est pas une histoire d'un peuple qui ne fait que réagir au racisme, aux inégalités, aux violences qui lui sont faites, mais qui tout au long de son histoire a inventé, a créé, a débattu, a discuté et s'est forgé sa propre histoire sans être une histoire purement réactive, où on aurait finalement les Noirs qui seraient les sujets, non pas passifs parce qu'ils réagissent, mais finalement qui est toujours avec un sujet en deuxième temps après une des actions blanches qui arriverait en premier temps. Donc là, ça permet d'inverser ce regard et de redonner vraiment toute sa puissance créative à cette communauté au fil des siècles.
Et c'est une manière aussi d'objectiver la situation d'une autre façon que celle empruntée par les sciences sociales, dont j'imagine qu'elles ont joué un rôle important. Dans cette exposition Colorline dont je parlais, on voit des représentations graphiques d'enquêtes menées par W.E. Du Bois pour l'exposition universelle de 1900 à Paris, où à travers ces graphiques qui sont très beaux par ailleurs esthétiquement, ils montrent la situation d'inégalité à l'échelle du pays ou dans les États du Sud en particulier. Comment vous percevez la place des sciences sociales naissantes, au fond, dans cette Black America? On sait par exemple que l'un des grands fondateurs de la tradition sociologique de Chicago, Robert Park, a été l'assistant pendant 10 ans comme activiste de Booker T. Washington. Donc il y a des liens étroits, ce sont des nouvelles disciplines qui apparaissent et il faut produire ces statistiques, il faut produire ces représentations de cette réalité ségrégée américaine.
Il faut non seulement produire ces statistiques et ces éléments factuels qui permettent de témoigner de ces états d'inégalité, mais il faut effectivement les produire soi-même. Il ne s'agit pas seulement de laisser ces nouveaux scientifiques ou chercheurs en sciences sociales blancs réunir ces données-là à la place de la communauté africaine-américaine. Donc il était particulièrement important comme enjeu, non seulement scientifique, mais comme enjeu politique, de reprendre la main, de prendre le contrôle, de s'investir pleinement dans l'apparition de ces nouvelles disciplines, tout au long de cette histoire.
Quelle alliance? Alors, ça, c'est une question, on a envie qu'elle soit développée, justement, avec les Blancs. Je pensais, en vous lisant un livre publié il y a quelques années de Nicole Lapierre, qui s'appelle Cause commune, sur les combats communs entre les Noirs et les Juifs américains, avec des compagnonnages extrêmement forts à différents moments de l'histoire et un rôle, d'ailleurs, sur lequel Pierre Birnbaum, dans un de ses livres aussi, insistait beaucoup sur des figures juives et la part qu'ils ont pris dans le combat pour les Noirs aux États-Unis.
Effectivement, il y a toute une tradition de lutte commune qui a regroupé les Juifs et les Noirs américains, en particulier, mais déjà avant, mais en particulier au moment de la Deuxième Guerre mondiale et juste après, avec ce moment clé de prise de conscience par l'Amérique blanche, par l'opinion publique américaine, de l'immensité de ce problème des inégalités raciales. Évidemment sensibilisés par le génocide pendant la Deuxième Guerre mondiale, et les Noirs américains ont immédiatement senti qu'il y avait une opportunité. Là. Et il y avait des alliances de long terme, en particulier tissées dans des contacts quotidiens, en particulier à New York, entre les deux communautés, qui ont pu se manifester. Alors après, il y a donc tout au fil de cette histoire, il y a des tensions, il peut y avoir des rivalités, et puis finalement, on voit cette cause commune se déliter à la fin des années 60 et les années 70. Mais effectivement, pendant un long moment, on a cause commune, force commune, au nom de la lutte pour l'égalité de traitement, l'égalité raciale. Et puis à d'autres moments, il y a effectivement toute... Alors, c'est pas une Amérique en noir et blanc, noir d'un côté, blanc de l'autre que j'ai retracé. Il y a à tous les moments de l'histoire toute une série d'exemples de collaboration. Si on regarde la grande organisation de la NAACP, par exemple, est une organisation interraciale où, dès le début, de nombreux blancs ont milité aux côtés de militants noirs et se sont investis dans cette cause pour la défense de l'égalité des droits entre tous les citoyens américains.
On voit bien l'importance de ces enjeux théoriques au moment où on parle de ces questions en France, avec le camp décolonial, les racisés, etc. Quelle est la bonne stratégie pour combattre ? Donc c'est à la fois un livre d'histoire, mais un livre d'histoire qui pose un certain nombre de questions qui nous intéressent encore aujourd'hui. J'ai gardé ces dernières questions pour la fin, parce que vous êtes historienne, mais là, on s'apprête à voir le double mandat de Barack Obama se terminer. Je le disais en commençant cette émission, c'était un événement historique, son élection. Les choses n'ont pas changé d'un coup de baguette magique pour autant. Quel bilan, quelle évaluation vous faites de ces 8 années d'Obama s'agissant de ce combat pour l'égalité et la justice?
Je pense qu'il faut, commencer par souligner l'importance historique de son élection. On ne la soulignera jamais suffisamment. Là, c'est vraiment l'entrée d'Obama à la Maison-Blanche, c'est la victoire ultime du mouvement pour les droits civiques. Donc ce mouvement de lever des obstacles légaux finalement à l'égalité de traitement. Mais mouvement pour les droits civiques, c'est un mouvement trop étroit qui fait que c'est clairement, si on s'intéressait seulement aux droits, on n'arrivait pas à résoudre la question des inégalités économiques et sociales. Et c'est ce qu'on voit à l'issue des 8 années de mandat d'Obama, c'est que la question des inégalités économiques et sociales à laquelle se grève la question, qui est une question de très long terme, des violences policières, dont est victime la communauté africaine-américaine et plus particulièrement les habitants des ghettos noirs, on voit bien que ces questions ne sont pas du tout résolues à l'issue de ces 8 années de mandat. Bon, il n'avait pas prévu de concentrer sa présidence sur l'amélioration de la situation des Africains-américains spécifiquement. Il a toujours gardé sa position d'origine, qui était une position universaliste, colorblind, d'essayer de faire avancer l'Amérique vers moins d'inégalités
en général,
et pas seulement pour les Noirs. Clairement, à l'issue de ces 8 années de mandat, les Africains-Américains, dans leur ensemble, et particulièrement les plus pauvres, n'ont pas vu leur situation s'améliorer.
Merci Caroline Roland-Diamond. Je rappelle le titre de votre livre, Black America, une histoire des luttes pour l'égalité et la justice. Il paraît aux éditions La Découverte. Je rappelle aussi donc que cette exposition de Color Line vient d'ouvrir au musée du Quai Branly à Paris. Vous trouvez toutes les références sur la page de La Suite dans les idées, sur le site de France Culture, page où vous pouvez réécouter ad vitam aeternam l'émission. Vous pouvez également vous abonner au podcast. C'était La Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau, attaché de production Catherine Donnet, à la technique Manuel Couturier, à la réalisation Jean-Christophe Francis. Et c'était Étienne Klein que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture pour sa conversation scientifique.